Vous êtes sur RTL.
7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, les hôpitaux de la région de Mulhouse débordés par les personnels anti-vax.
169 salariés suspendus et des services qui ne tournent plus. Les opérations sont reportées. Le plan blanc est déclenché. Comment l'enquête sur le 13 novembre a empêché d'autres attentats en France? Le chef des investigations à la DGSI témoigne sur RTL pour la première fois. Et c'est donc une plongée rare au cœur de l'antiterrorisme français que vous entendrez dans quelques instants. Dans ce journal également, la promenade mortelle de deux chiens bretons, leur seul point commun, avoir couru sur la même plage infestée d'algues vertes. Et puis les sorties nocturnes de deux moines pyromanes allergiques au progrès, ils ont incendié des antennes relais 5G à côté de leur couvent intégriste.
La politique, Olivier Bosse.
Et revoilà la réforme des retraites. Oui, je vous assure.
Il ne manquait plus que ça, et ça sera dès la fin du journal.
RTL Matin.
La région de Mulhouse, dans le Grand Est, avait été, on s'en souvient, l'une des plus touchées par la première vague de Covid il y a un an et demi et par la saturation des établissements de soins qui en avaient découlé. Eh bien, on apprend donc ce matin qu'à nouveau, malgré l'amélioration de la situation sanitaire, les 10 hôpitaux du secteur sont débordés. Bonjour Samuel Goldschmidt.
Bonjour.
Alors, ce n'est pas le Covid qui flambe, mais le nombre de suspensions des personnels soignants non vaccinés.
Oui, les effectifs sont trop serrés pour gérer le travail depuis l'obligation vaccinale. 170 salariés non vaccinés ont été suspendus depuis mercredi dernier, sur un total de 6000. Entre ces suspensions et l'absentéisme, le groupe hospitalier se voit contraint de geler les congés, rappeler éventuellement du personnel en vacances et reprogrammer toute une série d'interventions pour tenter de surnager. Le vrai problème, c'est que le sous-effectif est chronique à Mulhouse depuis bien avant le Covid. À l'été 2019, par exemple, les urgences étaient en grève. Il n'y avait plus que 7 médecins sur 26 postes à pourvoir. On se passait le mot dans le petit monde médical sur les mauvaises conditions de travail localement. Enfin, alors que le Haut-Rhin avait été le plus touché lors de la première vague, le département est aujourd'hui à la traîne pour la vaccination, particulièrement autour de Mulhouse.
Merci beaucoup Samuel Goldschmidt. La quatrième vague est maintenant derrière nous. Moins de 7000 cas chaque jour recensés en moyenne au cours de la semaine écoulée. Faut-il lever en partie les contraintes liées au pass sanitaire, notamment dans les 40 départements repassés sous les seuils de vigilance? La question sera abordée ce matin au Conseil de Défense.
Il est donc 7h02, un témoignage rare ce matin sur RTL, celui d'un enquêteur de la DGSI.
Oui, il est celui au sein des services secrets français qui a coordonné l'enquête après les attentats du 13 novembre. Il sera amené à témoigner au procès et il parle ce matin publiquement pour la première fois sur RTL. C'est Thomas Proutot à qui il s'est confié.
La première satisfaction qu'on a eue, c'est de pouvoir entraver les individus, les auteurs qui se sont enfuis. Mais certains, et notamment en Syrie, participaient à d'autres affaires. La satisfaction pour la DGSI, ça a été d'entraver d'autres projets qui étaient menés par ces mêmes personnes. Ça a été de constater que l'essentiel des membres de cette structure a été tué. Et donc c'était de pouvoir réussir à éviter d'autres morts à travers notre action. Comme je vous le dis, notre premier métier, c'est aussi d'éviter que ces individus qui sont des criminels puissent terroriser les gens dans nos rues, faire qu'on craigne de sortir, de vivre normalement. Et ça, c'est ce pourquoi on se bat.
Document RTL signé Thomas Proutot, le témoignage rare de cet enquêteur des services secrets français. Vous le retrouvez en longueur tout à l'heure à 8h20 et sur le site internet également d'RTL.
Et maintenant cette question, deux chiens sont-ils morts il y a 10 jours en Bretagne à cause des algues vertes?
Leur seul point commun en tout cas à ces deux animaux en pleine santé, c'est d'avoir fait une promenade sur la plage de Plestin-les-Grèves dans les Côtes d'Armor, infestée par les algues vertes. Ils ont suffoqué quelques heures plus tard, comme l'explique Juliette qui est la propriétaire de l'un de ces deux chiens.
Il est rentré de promenade et là, ça a été très rapide. Il titubait, il a beaucoup vomi, il a fait une hémorragie interne et il est mort en à peine 2 heures. Ça a été très violent. Ma conviction, je sais que c'est les algues. Oui.
Et des analyses vont être menées en laboratoire pour confirmer ou non cette hypothèse. On revient sur ce feuilleton dramatique des algues vertes. Elles prolifèrent à nouveau en cette rentrée sur les plages de Côte d'Armor. On y revient avec la brigade RTL juste après ce journal à 7h15.
Et décidément, il n'y a pas que l'ego français qui a été blessé dans l'affaire des sous-marins australiens. Des dizaines d'entreprises sous-traitantes concernées par le contrat du siècle sont inquiètes. On vous explique tout cela dans un instant sur RTL. Merci de nous être fidèles. À tout de suite.
RTL Matin.
RTL 7h06, la suite du journal d'Olivier Bois. Avec la perte du contrat des sous-marins, des entreprises françaises se retrouvent en fait en difficulté.
Olivier. Oui, près de 400 entreprises avaient reçu des commandes en sous-traitance. Parmi elles, Jeumont Électrique dans le Nord, qui avait déjà largement investi d'ailleurs pour fournir les systèmes de propulsion des sous-marins, Franck Hanson.
Oui, c'est un contrat sur lequel ce groupe industriel nordiste travaillait depuis 2013. 30 ans de boulot assuré. Alors, la volte-face des Australiens est toujours commentée à la sortie de l'usine.
C'est pas réglo de leur part, on peut pas dire que ça fait pas mal. Hein.
Les bureaux d'études, les ateliers de Jeumont Électrique s'étaient déjà mobilisés sur ces moteurs de sous-marins. Florian Brasseur, délégué CGT, est plutôt inquiet.
Et on avait déjà commencé aussi dans les ateliers à faire le prototype à terre. Ouais. Les 12 sous-marins étaient étalés sur 30 ans. Ça devait créer de l'emploi. C'est vraiment dommage pour l'emploi dans le bassin de la Sambre.
L'entreprise a malgré tout d'autres commandes dans le naval militaire pour compenser cette perte, confie Brahim Amar, directeur général du groupe.
Ça fait une perte, certes, mais ça ne devrait pas impacter l'entreprise dans sa structure sociale. Ça touche l'image de l'industrie française.
Un CSE est organisé aujourd'hui pour évoquer à nouveau ce contrat du siècle qui s'est envolé.
Merci Franck Hanson. Et on comprend mieux pourquoi la France parle depuis le début de trahison. Paris brandit aujourd'hui un courrier signé des Australiens qui confirme le programme. Courrier reçu le 15 septembre, quelques heures seulement avant le revirement spectaculaire.
En effet.
En bref, les scènes de panique ce matin à Melbourne en Australie. Un tremblement de terre a frappé la région. Les immeubles ont tremblé. On voit les images de ces gens sortir complètement affolés dans les rues. Le Premier ministre affirme qu'il n'y a pas de victimes recensées à cette heure.
Mais on en vient à cette histoire hallucinante des moines pyromanes arrêtés en flagrant délit.
Oh oui, c'était la semaine dernière à Villiers-Morgon dans le Beaujolais. Deux moines intégristes arrêtés en pleine nuit en train d'incendier une antenne relais 5G. Ils sont depuis mis en examen, Frédéric Perruche.
C'est peu dire que la nouvelle a rapidement fait le tour de la petite communauté. 20 moines capucins réfractaires au progrès traditionnaliste qui vivent tranquillement dans ce couvent de Villiers-Morgon à quelques mètres des vignes. Frère Jean-Marie fait office de porte-parole.
On condamne et c'est une erreur monumentale. Ils n'auraient jamais dû faire cela. Ils ont fait ça d'eux-mêmes et ils le regrettent maintenant, je pense. Il n'y a pas de volonté de s'insurger contre les antennes relais. Non, ce n'est pas notre combat.
Installé depuis une quarantaine d'années derrière d'imposants murs en pierre, c'est religieux n'avaient jamais fait parler d'eux, selon le maire de Villiers-Morgon, Thierry Lamure.
Personne ne s'est jamais plaint de nos moines de Morgon. À chaque fois qu'on les croise, il n'y a aucun souci. Ils ne participent pas directement, on va dire, à la vie de la commune ni à la vie associative. Mais franchement, je ne les voyais pas incendier une antenne. Ça paraissait pas le genre de la maison, en effet.
Les deux religieux ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire, mais les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour vérifier s'ils sont impliqués dans d'autres affaires similaires.
Merci beaucoup Frédéric Perruche.
C'est une exposition exceptionnelle hein, qui s'ouvre aujourd'hui à la Fondation Louis Vuitton à Paris.
Oui, la collection Morozov, du nom de ces deux frères russes qui ont accumulé à la fin du 19e siècle les plus grands chefs-d'œuvre de Monet, Van Gogh, Cézanne ou Renoir, 200 tableaux en tout. Un trésor qui sort d'ailleurs pour la première fois de Russie. Bernard Arnault en personne, le patron d'LVMH, a convaincu Vladimir Poutine de laisser sortir ces tableaux. Et il raconte d'ailleurs, Bernard Arnault, comment ils auraient pu disparaître, ces chefs-d'œuvre.
Elle a été constituée par un très grand industriel russe qui voulait l'exposer dans un musée. Et sur ces entrefaites est arrivée la révolution russe. Les tableaux ont été saisis et ils ont à plusieurs reprises frisé la destruction pendant la période bolchevique. Ensuite, pendant la dernière guerre mondiale, et ils ont été sauvés grâce à l'ingéniosité des musées russes qui les ont cachés dans certaines régions de Russie.
Et on les remercie évidemment pour ces chefs-d'œuvre. Bernard Arnault au micro de Monique Younes. La collection Morozov est à découvrir donc jusqu'au 22 février prochain à la Fondation Louis Vuitton.
Tous les détails à 9h dans Laissez-vous tenter. Nous retrouvons Monique Younes.
On termine avec un mot de sport. Oui. La 7e journée de Ligue 1. 5 matchs à 19h, dont Lille-Reims ou encore Monaco-Saint-Etienne. Et puis à 21h, Angers-Marseille, Lens-Strasbourg, Lorient-Nice, Lyon 3 ou encore Metz PSG. D'ailleurs, Lionel Messi, figurez-vous, est le forfait pour ce match ce soir au stade Saint-Symphorien. Il est blessé au genou. On suivra toutes ces rencontres dans les journaux et dans les flashs d'RTL ce soir.
Les courses ont lieu à Amiens aujourd'hui.
Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 12, le 4, le 3, le 5, le 6, le 10 et le 13. La dernière minute, c'est le 3.